Merci et désolée de ne pas avoir été là une grande partie de la journée. J'avais de bonnes raisons, j'étais à Stanford depuis 2 ou 3 jours, parce que je participais à la conférence d'un des très grands programmes de Stanford qui est sur le Global Energy and Climate Project, qui développe les innovations en matière d'énergie propre en particulier. Et c'était très intéressant de voir donc j'ai essayé d'expliquer comment nous avions obtenu l'accord de Paris et on mesurait bien la distance entre tout ce que la communauté scientifique produit, y compris aujourd'hui en termes d'innovation, et la grande distance dans un pays comme même si la Californie évidemment est un État très à part, la grande distance avec ce qui se passe dans la société américaine, le public américain, et ce contraste entre une incroyable densité d'innovation, d'idées, de vision futuriste aussi, et en même temps la distance avec la société dans laquelle ils sont. Et je trouve que c'est assez illustratif du propos de votre journée, de cette journée, de se dire comment est-ce qu'on recolle les bouts, enfin, de à la fois le rôle évidemment plus que central, décisif, qu'en matière de climat, la communauté scientifique a assumé pour mettre le problème sur la table, parce qu'il n'était évidemment pas perceptible sinon, et qu'en même temps, il faut arriver à le traduire dans la société, à la fois même du plan individuel, au plan des collectifs ou de ceux qui décident. Je disais tout à l'heure, ce n'était pas une boutade, la grande difficulté de se saisir de ce sujet, que Hervé a très bien tracé. Et je crois qu'on ne peut pas, sous-estimer cette grande difficulté à se saisir de ce sujet. D'où l'importance de ce sujet de l'éducation, qui est même peut-être plus que de l'éducation, du dialogue, de l'appropriation, et qui ne veut évidemment pas se cantonner à l'école. C'est d'autant plus fort que c'est la science qui met le sujet sur la table et qu'en même temps, on voit des aspects de déni, vous l'avez évoqué aujourd'hui. Ce déni est lié pour part à sans doute l'angoisse de la dimension du problème. L'un d'entre vous a dit il faut ne pas réveiller la réaction d'auto-immune contre un danger qu'on trouve trop grand. Et du coup, qui en vient à nier le travail scientifique, à le critiquer, à l'affaiblir. Bon, évidemment, aux États-Unis, c'est très violent. En Europe, ça l'est moins. Mais tout de même, il faut être très, très vigilant sur ce rapport entre ce que la science, dans tous les domaines, y compris celui-là, apporte, et la manière dont la société le reçoit. Et je trouve qu'il y a vraiment une réflexion... peut-être, et là vous me permettrez peut-être une réflexion personnelle, le fait qu'on a essayé dans la construction extraordinairement intelligente du groupe intergouvernemental d'études sur le climat de séparer les fonctions, la fonction du scientifique, sa fonction de communication avec les décideurs, et qu'en même temps on voit que les choses sont beaucoup moins claires. Enfin, la division des tâches est moins claire et qu'il faut... Il faut comprendre ces zones grises, il faut comprendre ces interactions, et qu'au fond, plutôt le prendre positivement, en disant les scientifiques ne sont pas d'un côté à dire des choses claires et sérieuses, et les autres à essayer de comprendre, mais de comprendre qu'il faut, et je crois que vous l'avez évoqué plusieurs fois dans la journée, il faut créer des espaces communs où ce dialogue, cette appropriation, cet apprentissage se déroule. Et il y a plein de méthodes pour le faire. Donc... vous dire aussi, avant de revenir sur ce qui m'a été transmis comme conclusion de ce que vous avez fait et qui me paraît tout à fait vraiment intéressant, ce problème de traduction, je le disais tout à l'heure, mais lorsque nous avons négocié, rédigé, c'était donc dans la nuit un petit peu avant la nuit du samedi, je crois que c'était entre le jeudi soir et le vendredi, de comment est-ce qu'on allait traduire l'objectif de limitation des températures. C'était un grand problème puisque de dire 2 degrés était déjà depuis longtemps la représentation et les accords d'une certaine façon. Aller plus loin était évidemment l'objectif plus difficile. Mais ce qui m'a frappé, c'était ce qui était très difficile, c'était de traduire ça de façon concrète. Et c'est là que les choses devenaient inacceptables. Par exemple, de dire qu'il fallait réduire les émissions de moitié ou de plus après, dans la deuxième fin. On a joué avec l'idée de ce que le cinquième rapport proposait comme formulation, aller vers les émissions à net zéro dans la deuxième moitié du siècle. Ça, c'était impossible à entendre parce qu'il y avait le mot zéro. Même de dire décarbonation profonde des économies, ça c'était impossible parce qu'évidemment il y avait beaucoup de pays qui encore vivent des exportations d'énergie fossile. Donc on a essayé plein de formulations qui pouvaient à la fois traduire l'objectif politico-scientifique de température dans quelque chose qui devenait plus concret, c'est-à-dire les limitations et la décroissance surtout des émissions. Et ça a été tout un travail moitié diplomatique, moitié affectif, je dirais presque, où l'idée d'équilibrer les émissions négatives et positives, finalement, les gens pouvaient se retrouver dans cette formulation-là, qui a toute son... Elle n'est pas ambiguë du point de vue scientifique. Probablement, dans la tête de ceux qui ont dit finalement oui aux petites heures, certains aux petites heures du samedi matin, probablement, ça, c'est encore difficile à comprendre. Mais pour montrer l'importance de... Quelqu'un a dit des mots, de la terminologie, du vocabulaire. Et en considérant aussi que ce n'est pas un processus de transmission directe. Il y a plein d'étapes, il y a plein de... ce sont des processus d'apprentissage multiples. Et je l'ai vraiment vécu complètement dans toutes ces années que je me suis consacrée à ces négociations sur le climat. On est dans des processus progressifs et il faut admettre que ces niveaux d'intégration, de représentation du problème, mais aussi de représentation des solutions, c'est un mouvement progressif. Donc du coup, si on pense que ce qu'il faut comprendre, c'est non pas une action pédagogique, mais un processus d'apprentissage. Ça permet de regarder les travaux qui sont à faire aujourd'hui pour que ceci puisse arriver. Parce que sans processus d'apprentissage, c'est-à-dire sans processus d'appropriation, il n'y aura pas d'action. En tout cas, elle va devenir impossible, tout simplement parce qu'elle paraît trop complexe. Et peut-être une première remarque qui tirait aussi de ce que vous avez discuté aujourd'hui en termes de connaissances et de sensibilisation à ce changement climatique. J'ai observé et je vois que vous êtes arrivé aux mêmes conclusions. Pour pouvoir générer cette appropriation, ouvrir le débat avec la société civile, et évidemment, on pense d'abord aux enfants et à l'éducation, mais je dirais qu'il faut vraiment élargir cette question d'éducation à toute la société. Il faut en même temps parler des solutions en même temps qu'on parle du problème. Sinon, et c'est normal. On peut le vivre personnellement, hein. Si on est affronté devant un très grand danger et qu'on n'a aucune idée de comment on y répond, la meilleure façon de faire, c'est de l'ignorer. Et donc il y a quelque chose de très important, et je crois que pour la communauté scientifique, c'est un grand saut, d'ailleurs, dans sa relation avec les différents travaux, les différentes évolutions et les différentes tâches, disons, que collectivement on doit prendre, le fait que cette communauté, elle doit être, pour que sa représentation du problème et des enjeux soit entendue, il faut qu'elle soit elle-même une force très active dans l'identification et le développement des solutions. Tout ne réside pas dans la communauté scientifique, puisqu'il y a plein d'acteurs qui doivent mettre au point ces solutions, les politiques qui doivent en tracer la route et l'encadrement. Mais il y a quelque chose dans l'attention portée de la communauté scientifique. Pour que cette activité scientifique soit comprise, de comprendre que les sociétés ont besoin des réponses en même temps que l'identification, ou presque en même temps que l'identification des problèmes. C'est pour cela que, contrairement à d'autres collègues des sciences sociales, je ne crois pas au catastrophisme éclairé. Je crois que quand il y a catastrophisme, juste on veut ignorer ce qui se passe. Et encore une fois, je l'ai expérimenté personnellement dans le cadre de cette négociation. J'ai trouvé que vos réflexions dans l'aspect de continuité dans l'éducation... Et des faits très importants, l'idée de changer les comportements impliquant le changement des mentalités, donc c'est tout à fait important aussi. Et préalablement, je voulais soumettre à votre avis, il y a quelques exemples et dans mon équipe, quand on a préparé cette intervention, l'un des exemples qui est venu sur l'idée de l'accès à la connaissance des femmes en particulier. Vous parliez, madame, du Rwanda, et montrait que quand on regarde l'impact des événements extrêmes, et on sait que les victimes féminines sont plus nombreuses, bien plus nombreuses, 14 fois plus élevées pour les femmes et les enfants que pour les autres. Ça veut dire qu'on a là un enjeu de prévention considérable, et que cet enjeu-là, donc, ça veut dire qu'il y a des populations qu'il faut cibler particulièrement. Donc changer les comportements, c'est changer les mentalités, c'est aller jusque-là à intervenir de façon prioritaire vis-à-vis des femmes. On peut le voir sur tout l'aspect de l'activité de la production alimentaire féminine qui est très importante, et là aussi on sait que c'est évidemment dans ce domaine que les impacts vont être parmi les plus importants. Donc cet aspect de relation homme-société, homme-nature, on voit bien que le climat donc peut pas être conçu comme un problème spécifique avec des modules pédagogiques spécifiques. Il faut qu'il soit, je crois que vous l'avez vraiment dit toute la journée, et je ne peux que adhérer à ce que vous avez identifié. Alors, Hervé parlait des problèmes de pédagogie. J'en parlais avec l'une d'entre vous à partir du formidable travail de La Main à la Pâte. Je crois que ça change tout, la pédagogie. Bon, moi, je suis prof, normalement, je ne suis pas un diplomate de carrière. Et je vais revenir à mes chères études très bientôt. Et vraiment, ça change tout. J'ai un exemple aussi personnel, c'est toujours mieux quand on le vit. Je fais un cours, ça ne vous étonnera pas, sur l'économie et la politique du climat et les relations internationales. Donc j'ai des étudiants, d'habitude je leur fais des cours très bien. Et deux années, à deux intervalles, ce n'était pas deux années de suite, on a fait une simulation. Chaque fois avec pas mal d'étudiants, 200 ou 250 étudiants à chaque fois, et les mêmes étudiants qui m'avaient écouté sérieusement, ils n'avaient pas protesté dans l'année, ils avaient fait des bons travaux, utilisaient des textes théoriques, et une fois plongés dans la situation de simulation, ça n'a plus été du tout les mêmes. Les mêmes concepts qu'on avait travaillés ensemble, avec des textes clairs et compréhensibles, et avec une méthode pédagogique, probablement assez traditionnelle, qui était la mienne. Bon, c'était intéressant, mais ça n'avait rien à voir avec le moment où ils avaient vécu et transformé la situation d'apprentissage dans une situation d'action. Bon, je n'apprends rien à ceux qui font la main à la pâte, simplement on peut l'étendre à beaucoup, beaucoup de domaines, et je trouve que Hervé a complètement raison. Est-ce que c'est serious game? Effectivement, je sais que les simulations, Sciences Po proteste à chaque fois sur l'idée qu'on revient avec une autre idée, parce que ça coûte cher, c'est difficile. Ça bouleverse tout, les calendriers, les horaires, les tranches de deux heures pour les écoles, enfin les cours. Mais franchement, la transformation profonde des méthodes pédagogiques, on devrait vraiment pas arrêter d'y penser. Je sais que ça se fait pas beaucoup en France en ce moment, parce que lire, écrire, compter, il faut le faire comme d'habitude. Mais quand même, et surtout avec tout ce qu'on sait sur les processus cognitifs et tout ce qu'on peut pratiquer et voir... Et encore une fois, je crois qu'on soulignera jamais assez l'extraordinaire expérience pédagogique que cette fondation maintenant réalise, et dont il faudrait tirer les enseignements pour tout le reste. Si c'est en action, on apprend 40 fois plus vite, c'est vrai. Et je pense que... Donc, de ce point de vue, je ne sais pas comment le message peut être porté, mais il peut être très validement porté par ce que représente ce colloque. Et peut-être en trouvant des formes et des formules évidemment qui soient adaptées, parce que encore une fois il y a des problèmes de coût et de temps, mais je crois que ça peut être beaucoup transformé. Hier à Stanford, je discutais avec un de mes collègues indiens, et il racontait comment la Khan Academy avait changé, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est cet ingénieur indien qui a généré une académie où chacun enseigne à chacun. Et qui a un succès fou en Inde, même s'il fait ça à partir de la côte ouest. Et il y a vraiment, je pense que grâce à ce rassemblement que vous avez fait aujourd'hui, vous pouvez envoyer un message à cette communauté pédagogique qui a encore peur quand même de bouger, hein. C'est un peu conservatrice tout de même. Et alors, comme le climat c'est grave, peut-être qu'on vous entendra plus que sur d'autres sujets. Je pense que la coopération internationale permet d'ailleurs de desserrer beaucoup ces conservatismes, parce qu'on voit bien qu'il y a des cultures différentes, des représentations différentes, et que le travail qui est fait en matière de coopération à l'éducation pourrait évidemment tellement valablement intégrer ce travail sur l'éducation pour le climat. Encore une fois, les moyens modernes permettent de donner accès à beaucoup d'enseignants des outils différents. Aujourd'hui, c'est quand même largement des fondations caritatives qui financent ça. Je crois que les grands programmes de fondation de ces innovations pédagogiques, je crois que c'est la Fondation Gates qui le fait. D'ailleurs, j'ai été frappée de voir que cette Cannes Academy, elle est financée essentiellement par la Fondation Gates. Je pense que ça serait une bonne utilisation de l'argent public de financer aussi les innovations à grande échelle, notamment en utilisant ces outils. Alors, j'ai trouvé formidable, je débarque de mon avion, donc j'avais vraiment envie de venir. Ce partenariat entre Académie des sciences et AFD, c'est formidable, en particulier autour de cette idée merveilleuse de la main à la pâte. Si on vraiment, l'agence peut tirer tout le fruit, et j'ai trouvé très intéressant ce que vous racontiez, madame, sur le Mexique. C'est une forme d'action. Hein, on voit bien, vous disiez tout à l'heure, mais maintenant il faudra donner un suivi à ce que ces enfants pensent de leur ville. Mais c'est un formidable programme pour l'agence, au contraire, d'être innovant et justement de comprendre que le dialogue, la participation, la mise en action transforment complètement le rapport à la connaissance. Alors, pour conclure, on voit qu'il y a un beau programme de travail, international, certainement beau travail, y compris en France et en Europe. Je crois que il faut s'attaquer sérieusement à cette question de la traduction, faute de quoi on prêchera beaucoup sur le climat et on ne fera pas grand-chose. Il faut faire comprendre l'importance des transformations qui sont nécessaires, le traduire de façon concrète, ce que ça veut dire pour notre manière de se transporter, de se chauffer, de s'alimenter. Et je crois que, mais encore une fois, en considérant que c'est tout le temps sur le métier, puisque c'est un processus, c'est difficile d'absorber ces nouvelles notions, de questionner ces comportements. Et c'est vrai que de le faire par la jeunesse est une très bonne chose, mais je dirais qu'on en a besoin aujourd'hui un peu à tous les étages de la société. Donc, est-ce que ce partenariat peut suffire? Sûrement pas, il faut l'étendre à certainement beaucoup d'autres institutions. Mais je crois que les messages que pourrait donner ce colloque, c'est la prise en compte de ce problème d'apporter ces notions, de les faire se saisir, de les transformer en action, que nous avons en partie des moyens pour cela, comme l'a dit Hervé Letruc tout à l'heure, mais qui devraient être très renforcés, mais qu'au-delà, il faut tout de même vraiment comprendre ce côté transformationnel. Alors, comment on éduque à la transformation, c'est une grande chose. On est en plein dans une troisième révolution industrielle, ou une quatrième, ça dépend comment on les date. Et comment est-ce qu'on mobilise plusieurs sociétés différentes autour de cette idée-là est quand même un vrai enjeu. Et du coup, on voit pourquoi la connaissance scientifique est un fondement de cela. Donc, un beau programme et sans doute avec des outils assez radicalement nouveaux. En tout cas, comme présidente du conseil d'administration de l'agence, je vais certainement ramener tous ces éléments à ce conseil et puis à notre institution qui est très investie sur les questions d'éducation et de développement durable, mais qui a certainement besoin d'avoir aussi un grand développement des innovations et de les comprendre et de les développer. Je crois que elle peut aussi porter cela dans tout le travail de coopération internationale sur l'éducation qui est quand même assez structuré, mais qui a vraiment besoin de soutien additionnel et de dynamique additionnelle. Donc je crois que ça pourrait être de très beaux projets, de faire du développement durable, la vision du futur, de que des jeunes aux plus vieux, on se demande qu'est-ce qu'on veut vivre, où est-ce qu'on veut que nos sociétés soient d'ici 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ça, c'est quand même un vrai beau programme et de projection collective et d'éducation. Je vous remercie.